Eh bien, chers amis de la pub en vol, bonsoir. Les sièges sont prêts, remplis, c'est tout bon. Il est 8h, donc 8h pétantes. Comme ça, je ne vais pas me faire engueuler non plus. Nous commençons comme c'est dit. Et donc, c'est la première de 2015 et nous allons butiner encore en 2015 plein de sujets. La prochaine fois, ce sera sur les années folles de la physique avec ce monsieur, voilà, qui nous parlera de façon détendue des grands courants physiciens, et ce sera compréhensible par tout le monde, comme le sera ce que va nous faire très, très bientôt Christophe. Ensuite, il y aura quelque chose d'exceptionnel, je le mentionne maintenant, qui sera, parce que c'est en décalage, ce sera le 4 mars 2015 à Carbonne, et nous allons avoir une démystification de la franc-maçonnerie dans une perspective historique et contemporaine. Et nous avons la chance, grâce à Yannick Foucault, qui est notre journaliste du Petit Journal de Rieux, qui a pris contact avec le grand maître du Grand Orient, Daniel Keller, qui viendra à Carbonne. Et ce n'est pas souvent qu'on aura un grand chef comme ça à Carbonne. Voilà. Et bien c'est tout. Maintenant, je vais laisser le micro à M. Bernard Ferrand, pour qu'il présente notre orateur.
Merci Jean-Pierre. Donc, présentation extrêmement brève, évidemment. On va parler des abeilles, mais surtout de tous les insectes pollinisateurs, et puis on reviendra peut-être aux abeilles. Donc, c'est Christophe Subra qui va nous faire cette présentation, cette conférence. Christophe Subra est apiculteur professionnel, installé depuis des années à Rieux-Bourg-Lens. 10 ans, aujourd'hui presque.
En février,
bientôt 10 ans. Donc tu sais ce que ça signifie. 10 ans, bon d'accord. Et apiculteur professionnel, et on le voit, parce qu'il travaille aussi de par ailleurs. Hein. L'apiculture, ça ne nourrit pas toujours son nom aujourd'hui. Et on le voit dans les rues de village, et beaucoup de gens le connaissent. Donc, son passé, il a eu une carrière de météorologiste, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il pourrait nous faire une présentation pour le temps de demain, en fonction des données qu'on a relevées en rentrant dans la salle. Mais ce n'est pas l'objectif, ce sont les insectes pollinisateurs. À toi, Christophe.
Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc voilà, c'est vrai, je suis installé depuis 10 ans à Rieux-Volvestre. Notre structure, je travaille avec mon épouse sur l'exploitation, notre structure s'appelle le Rucher des Ânes. Alors le Rucher des Ânes, parce qu'on a une double casquette, volontairement on s'appelle le Rucher des Ânes, parce qu'on a une... Bon d'abord la première activité est l'apiculture, et la seconde la location des ânes. Alors volontairement, plus réactif aussi, enfin, c'est même pas volontairement, c'est par la force des choses, on est obligé d'être, comme vient de le dire Bernard, plus réactif. Et justement, c'est cette plus réactivité qui m'a permis de monter une ferme pédagogique à la maison et de commencer à m'intéresser justement aux abeilles. Alors les abeilles, je les connaissais, mais c'est par le biais de la ferme pédagogique, donc de ce qu'on présente aux enfants, que j'ai commencé à m'intéresser aux abeilles en général. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu ma présence ce soir devant vous. On peut commencer, c'est parti pour la première. Donc on a des pertes partout dans le monde, hein, vous savez, on en entend parler dans les médias, les abeilles sont en danger, les abeilles meurent, on a des mortalités énormes. Ça c'est un lot commun, c'est mondial, hein, c'est pas propre à la France. Et avec ce déclin, voilà, on a de nombreuses espèces qui sont menacées. Donc nous, on a sous les yeux les apiculteurs, on a sous les yeux les abeilles, mais il y a évidemment d'autres variétés d'abeilles qu'on appelle les abeilles. Alors les abeilles domestiques, ce sont les abeilles à miel, et il y a les abeilles solitaires. Donc on va voir ça tout à l'heure. J'ai quelques petits chiffres. La survie ou l'évolution de plus de 80% des espèces végétales dans le monde dépendent des abeilles. Donc 80%, on est quand même dans un ordre de chiffres assez important. La production de 84% des espaces cultivés en Europe dépend directement de la pollinisation des insectes. Donc ça aussi, c'est un chiffre élevé, important, qui dénote quand même la réalité et l'importance de ces insectes. Alors, ces insectes sont de l'ordre à peu près, en Europe, on dénombre à peu près 1000 espèces d'abeilles, hein, dans ces abeilles solitaires. Voilà. Là, j'ai quelques chiffres, on va commencer par ça. Il me semblait intéressant de vous présenter ces chiffres. Les insectes pollinisateurs représentent par leur action la reproduction de plus de 80% des espèces végétales, on l'a dit juste avant, 3/4 des cultures dans le monde, ça c'est assez important, 35% de la production alimentaire mondiale dépend des abeilles, voilà, 10% du chiffre d'affaires de l'agriculture, ça semble pas énorme, mais quand même, rien que par la pollinisation, ça représente 10%, et un chiffre qui a été donné il n'y a pas très longtemps, on a évalué à peu près à 265 milliards par an le chiffre de la pollinisation. C'est un chiffre qui a été donné à Pimondia lorsque ça s'est passé à Montpellier, en France. Et ce chiffre, à mon sens, il a commencé à donner l'importance. C'est là qu'on a commencé à avoir des réactions. Évidemment, quand ça commence à toucher le porte-monnaie, hein, ou d'évaluer par le porte-monnaie. Donc 265 milliards d'euros par an. La filière française en France, c'est 20 000 personnes, tout simplement pour ce qui est des produits de la ruche et tout ce qui est filière miel. Mais en professionnel, on estime qu'il y a à peu près 2 000 apiculteurs professionnels. Ce chiffre est en baisse, bien évidemment, de plus en plus. Et les amateurs, 100 000 à peu près. Voilà. Donc la perte des abeilles pollinisatrices menace l'agriculture. Depuis des années déjà, on a de nombreux apiculteurs qui dénombrent cette mortalité. Bon, alors ce fait tracasse parce que les abeilles, évidemment, sont des abeilles, surtout les abeilles domestiques qu'on a sous les yeux, sont des pollinisatrices. Donc les causes de la perte des colonies en Europe doivent être considérées comme multifactorielles. Ça, c'est ce qui a été dit pour la première fois, justement, à Pimondia. Il me semble que c'était en 2009. Et c'est assez important de dire que c'est multifactoriel. Parce que jusqu'alors, on déterminait surtout que c'était par les insecticides. Voilà. Donc ces causes multifactorielles, on va les développer. La première, l'utilisation d'herbicides qui suppriment beaucoup de plantes, la première source de nourriture pour les insectes, donc ces herbicides. Les insecticides, alors je ne les ai pas mis dans un ordre évidemment de préférence, hein. Je les ai mis dans le désordre. Les insecticides utilisés pour les cultures, là, donc on a entendu parler du gaucho, on a entendu parler du régent, et puis dernièrement du cruiser, hein, c'est des noms je pense que vous avez déjà entendu ou vu. Chose aussi en troisième raison, la transformation de l'espace rural, donc qui a fait disparaître de nombreux milieux. Donc ça, c'est toutes les champêtres. Évidemment, dans la culture, on a essayé de gagner au maximum sur les surfaces et on a supprimé ces fameuses haies qui sont une source première d'apport en pollen, de nectar pour les abeilles, mais aussi pour tout ce qui est la faune. Hein. Il n'y a pas que pour les insectes. Voilà. Alors, les parasites. Là, je vous ai mis une abeille avec on voit un petit varroa là, sur son dos, vous voyez le.
Ouais, c'est rouge là.
C'est un acarien. Donc ça, il parasite l'abeille dans sa phase larvaire, dans les alvéoles. Ensuite, on a les maladies. Donc j'ai mis des exemples, la loque, la nosémose. Ça, ce sont les maladies dont les abeilles souffrent. Les ondes électromagnétiques. Alors ça, les ondes électromagnétiques, très important aussi. Je ne saurais pas vous dire exactement l'impact précis, mais moi j'ai juste un exemple que je peux vous donner. J'ai un téléphone, comme tout le monde, j'ai un iPhone, et quand je réponds au téléphone au-dessus d'une ruche, les abeilles attaquent mon téléphone. Voilà. Alors au début, je me suis dit, ça doit être le haut-parleur, ça doit être la pochette en cuir. J'ai tout essayé, c'est vraiment... Lorsque le téléphone est en émission, tant qu'il est en veille, ça ne leur pose aucun problème. Dès qu'il est en émission, elle l'attaque. Donc, voilà. je pense que, après les ondes, les relais, c'est assez variable. Au niveau des positionnements des ruchers, on peut avoir plus ou moins des perturbations, mais ne serait-ce que le téléphone en émission sur la ruche, les amis. Voilà. J'ai mis en dernier le changement climatique, et les changements climatiques en ce moment, c'est aussi ce qui nous perturbe dans l'agriculture. Jusqu'à maintenant, c'était ça, tout le reste, et puis là, dernièrement, depuis 2 ans, c'est vrai qu'on a des saisons de printemps qui sont pas du tout propices pour les abeilles, les précipitations, le froid, enfin voilà. Et donc ça aussi, le changement climatique, c'est un autre sujet, bien évidemment, majeur, mais le changement climatique induit beaucoup de perturbations pour nos insectes. Voilà, donc des abeilles avant tout, parce que, évidemment, les abeilles visitent les fleurs et on a une relation indissociable avec les fleurs. Donc j'ai mis quelques exemples. Les abeilles interviennent dans la pollinisation de très nombreuses cultures, les rosacées, donc tout ce qui est nos arbres fruitiers, les abricots, les amandiers, cerisiers, bon, j'en passe. Les cucurbitacées, les courgettes, melons, pastèques, solanées, tomates. Alors tomates, il y a une action, mais les tomates se débrouillent toutes seules par auto-pollinisation. Le kiwi, c'est une culture sans les abeilles domestiques. Les producteurs de kiwi n'ont pas de récolte, donc il y a une forte dépendance. Tout ce qui est les cultures oléagineuses, colza, tournesol. Protéagineuse, févrole, voilà, et puis dans le jardin, tout ce qui est artichaut, chou, fenouil, oignon, persil, poireau, voilà. Il y a un tableau, je ne sais pas, peut-être visuellement, là, vous ne verrez pas beaucoup.
Non.
Donc, bon, c'était simplement pour pouvoir vous montrer qu'il y a des plantes qui sont dépendantes des insectes pollinisateurs. Tout en haut, on a des plantes telles les épinards. Ensuite, on a des plantes dépendantes pour la sélection de graines. Voilà. Mais bon, je pense que ça, on va passer. Ça sera, si vous n'avez pas la vue dessus, ça ne va avoir aucun intérêt. Voilà. Donc, je fais un petit aparté sur la pollinisation. Parce que je m'aperçois aussi que dans la ferme pédagogique, quand on a les enfants, on a les parents. Et j'ai souvent des parents qui se souviennent plus comment fonctionne la pollinisation. Donc peut-être pour certains c'est simple, mais c'est un petit aparté. Contrairement donc au mode de reproduction végétative, comme le bouturage, la pollinisation elle intervient sur la reproduction sexuée. Donc les abeilles sont attirées par la fleur, simplement parce qu'elle a du nectar. La fleur fabrique du nectar qui ne lui sert à rien, c'est pour attirer les abeilles. Donc cette pollinisation permet le transport des grains de pollen, qui sont les gamètes mâles, sur la fleur ou sur le pistil hein, de la fleur pour assurer la fécondation. Donc, on a d'autres modes de reproduction, évidemment, dans la pollinisation. Ça va être la pollinisation par le vent. La pollinisation par les insectes, c'est 80%. Il reste 20% par le vent, par l'eau, et puis aussi par les animaux qui vont ingérer les graines et les disséminer au fur et à mesure dans leurs excréments. Hein, voilà. Donc on peut passer à la suivante. Juste une petite photo pour vous rappeler. Donc là, je vais m'aider. Simplement, on ne va pas détailler trop, mais on a le pistil, les étamines, et c'est justement sur les étamines que l'on va retrouver le pollen. Les abeilles vont aller chercher le nectar au fond de la fleur, frotter simplement sur leur dos le pollen et le transporter afin que ce gamète mâle rentre à l'intérieur ici du pistil où on va retrouver l'ovaire. Voilà. Donc ça c'est la reproduction sexuée chez les plantes. Voilà. Donc, oui on peut passer, c'est bon. Merci Bernard. Alors, les différents pollinisateurs, on peut les classer en 4 catégories. Donc les hyménoptères, on va y revenir après. Simplement, les hyménoptères, ce sont les bourdons, les abeilles. Les abeilles, donc, dans les deux catégories, les abeilles domestiques et les abeilles solitaires. On a aussi les diptères. Donc les diptères, c'est tout ce qui est famille des mouches, moustiques. Là, je vous ai mis une photo, c'est aussi les syrphes. Hein, donc c'est une syrphe. Les coléoptères, les hannetons, les scarabées. Et la dernière catégorie, les papillons. On peut passer. Donc dans les diptères, On a donc les diptères, ça veut dire que ces insectes ont deux ailes, d'où le mot dit. Donc là-dedans, ce sont des insectes qui sont très légers, et justement ce poids va permettre de polliniser et de se poser avec précision sur des petites fleurs que d'autres insectes ne peuvent pas, sur lesquelles ne peuvent pas aller. Voilà. Les coléoptères, ben eux, c'est le contraire. Ils sont très gros, donc les coléoptères, ils ont des élytres, ils ont les carapaces. Ils visitent plutôt des fleurs à large corolle, hein, des grosses pistes d'atterrissage, en fait. Donc, vous voyez que là, chaque insecte a une plante spécifique, va plutôt avoir une plante spécifique. Voilà. Et ces coléoptères ont souvent des poils très fins, donc ils transportent très bien le pollen. Dernière catégorie, on a les papillons. Donc les papillons, eux, ils ont plutôt la particularité d'avoir des longues trompes, donc vont plutôt aller sur des fleurs avec des longs calices, où il y a du nectar au fond des très longs calices. Voilà. Donc les hyménoptères, puisque c'était la première catégorie, on va les détailler, c'est là qu'on va retrouver nos abeilles. Donc les hyménoptères se déclinent en apocrites s'ils ont taille de guêpe. Voilà. Ensuite, taille de guêpe qui possède un dard, on va retrouver les aculéates. Et dans les aculéates, on aura les formicidés qui sont les fourmis, les abeilles, les apoïdés, et les vespiformes, donc tout ce qui est les frelons, hein, famille des frelons. Donc on va détailler maintenant sur les abeilles. En premier, l'abeille domestique. Donc là, tout le monde... on va rester sur l'abeille domestique 2 secondes. Voilà. Donc sur l'abeille domestique, simplement, l'abeille domestique... c'est pas le sujet de ce soir, mais 2 chiffres. Une abeille domestique, on sait que pour fabriquer 1 kg de miel, il faut qu'elle visite entre 500 000 fleurs à 1 million de fleurs. Voilà. Pour fabriquer 1 kg de miel, ça va dépendre en fait de la variété des fleurs et de la quantité de nectar qu'elles vont avoir. Pour fabriquer ce kilo de miel, on considère aussi qu'il faut qu'elle parcourt 40 000 km. Voilà. Donc ce sont des chiffres assez intéressants parce qu'il y a une région dans le Sichuan en Chine où ils n'ont plus du tout d'abeilles et ils sont obligés d'aller carrément dans les arbres fruitiers, récolter le pollen et après dans des hangars, détacher les étamines, récolter ce pollen pour après avec des pinceaux remonter dans les arbres et faire le travail des abeilles. Bien évidemment, vous comprenez qu'ils ne sont pas à la hauteur de la quantité d'abeilles qu'il peut y avoir. Donc une ruche en l'occurrence, c'est entre 40 et 60 000 abeilles, dont les 2/3 quasiment sont des butineuses. Donc vous voyez quand même qu'on ne peut pas rivaliser. Hein. C'est pas avec des échelles et des pinceaux, bien sûr. Donc le sujet de ce soir, c'est plutôt les abeilles solitaires. Donc Bernard, on va passer aux abeilles solitaires. Donc voilà, tu peux dérouler. Voilà, alors, en premier, je vous fais une petite définition de l'abeille solitaire. Alors, en opposition aux abeilles sociales, hein, qui, elles, vivent en colonie, elles coopèrent dans leur élevage pour leur progéniture, donc chaque abeille a un métier, a un rôle, elles sont nourrices, elles sont butineuses, elles sont nettoyeuses, voilà, elles ont différentes fonctions dans la ruche. Les abeilles domestiques donc, ont aussi ce chevauchement de génération que je viens d'évoquer, qui sont dans les métiers. Elles ont une division du travail reproductif, c'est-à-dire que chaque individu ne reproduit pas, il y a seulement la reine qui reproduit, alors qu'en opposition, les abeilles solitaires, de par leur nom, sont solitaires, évidemment, elles sont seules, hein, à part par moment où vous allez le voir après. Dans les nidifications, elles peuvent avoir des instincts plutôt grégaires et se regrouper les unes à côté des autres pour faire leur nid. Mais c'est les seuls moments où elles vont se côtoyer, finalement. L'espérance de vie d'une femelle, pour les abeilles solitaires, est entre 2 et 10 semaines, selon les espèces. C'est assez large. Les mâles, beaucoup moins, c'est de l'ordre de quelques jours. Alors que chez les abeilles, on va retrouver en pleine saison plutôt 3... Les abeilles domestiques, pardon, on va retrouver plutôt... Une durée de vie pour les butineuses, pour les abeilles, qui va être à peu près de 3 semaines en pleine saison, plutôt 3 mois dans l'hiver, mais 3 semaines en pleine saison. La reine vit beaucoup plus longtemps, entre 3 et 5 ans. Bon, je dis toujours aux enfants, vous retenez le chiffre 3, 3 semaines pour les abeilles, 3 ans pour la reine et 3 mois pour les mâles. Voilà. Donc 90% des abeilles sauvages n'ont pas de reine. Donc elles passent leur temps en fait à se reproduire individuellement, à fabriquer un nid, à butiner et à refaire des œufs et à repondre. Voilà. Donc quelles sont ces abeilles solitaires? On peut les classer en 6 familles. Dans ces 6 familles, on va retrouver les colletides, les alictes, les andrénides, les mégachildes, les anthrophorides et les apides. Voilà. Toutes ces abeilles ont en commun que ce sont les femelles qui récoltent le pollen. Elles possèdent un appareil de récolte, le plus souvent qui est localisé au niveau des pattes postérieures, sauf pour les mégachildes où on va retrouver, vous allez le voir sur les photos, on va retrouver, c'est sous son abdomen qu'on va retrouver ses poils. Également chez elles, les pièces buccales des abeilles ont des tailles différentes, la longueur de la langue donc est variable selon les familles, et c'est un caractère important, donc ça va être adapté en fonction des types de fleurs qu'elles vont exploiter pour aller chercher leur source de nectar. Donc on peut considérer que les colletides, les andrénides, les alictes sont pourvues plutôt d'une langue courte. Donc elles vont plutôt aller sur les ombellifères, les crucifères, voilà. Alors que les mégachildes, les anthrophorides et apides, les trois autres, possèdent une langue plus longue, donc là, évidemment, elles vont être adaptées à des variétés, les labiés, les papillonacées et les scophulariacées, qui sont des plantes avec des calices beaucoup plus profonds. Hein. Le corps des abeilles donc, étant recouvert de nombreux poils, à l'opposé de ceux des guêpes. Et la particularité aussi, c'est qu'ils sont plutôt plumeux ou barbelés et qui retiennent très très bien, encore mieux que les abeilles domestiques, le pollen. C'est important. Donc, ce qui les différencie aussi, c'est qu'elles ont des nids très variés. Donc là, pour faire simple, on va avoir deux types de nids. Les premiers, c'est plutôt à 70% pour la majorité de ces abeilles, vont faire des nids dans des terriers, dans la terre. Donc ça peut être des cavités qui existent déjà, ou des cavités creusées carrément par la femelle, par l'abeille, dans lesquelles elles vont faire des galeries avec de nombreuses cellules. On va retrouver des cloisons. Donc j'ai mis une photo ici qui va être à peu près, le type de ponte va être à peu près commun pour les deux, hein, parce que pour les deux catégories où on a une espèce terricole et une espèce hors sol. Donc ça, à chaque fois, on va retrouver, vous avez ici le petit grain de riz, là, ça c'est l'œuf. L'abeille va au fond remplir de pollen, et à chaque fois on a une cloison, voilà. Et ça c'est dans un tube, mais on va retrouver à chaque fois une cloison, le pollen, la larve, un espace très important, parce que évidemment quand elle va croître, se transformer en abeille, il lui faut du volume. Donc l'autre catégorie, je viens de le dire, fait leur nid hors sol. Donc là on va retrouver plutôt sur des supports dans du bois, donc ça ils vont creuser des galeries dans le bois, dans des tiges de roseaux, des tiges à moelle, hein, voilà. Ceux qui font leur nid dans les espèces silicoles, ça veut dire qu'elles font leur nid dans le bois. Elles construisent toujours dans du bois mort, hein, jamais dans du bois tendre. Voilà. Première catégorie, les colletidés. On estime qu'en France, il y a à peu près une centaine d'espèces. Donc, c'est une espèce qui démarre très tôt au printemps, hein, et qui va au printemps, donc les premières floraisons, c'est souvent les saules, donc on va les retrouver sur cette variété-là. Donc là, elle creuse son nid dans un sol sablonneux, on a là justement la galerie, elle a sorti la terre, vous voyez, avec la cavité, hein. Donc c'est plutôt des cellules à paroi mince, hein, qui ressemblent à de la cellophane. Cette abeille, on l'appelle souvent l'abeille plâtrière, l'abeille à face jaune, voilà. Deuxième catégorie, les mégachildes. Ça, on estime qu'il y a à peu près 230 espèces. Ce sont des abeilles, alors ça, les mégachildes, on les appelle les abeilles coupeuses de feuilles, qui nidifient dans, dans des terriers ou alors dans des terriers d'insectes qui ont creusé dans du bois. La feuille va simplement fabriquer une bouillie et la cloison dont je vous ai montré la photo précédente a formé cette cloison. Voilà. Donc je vous ai mis en photo deux espèces. Il y en a une en bas qui préfère plutôt, donc c'est la Megachile versicolore qui préfère plutôt les rosiers et les prunelliers. Voilà. Et la Megachile analis qui va, elle, plutôt sur les bouleaux et les chênes. Une autre, les andrénidés. Donc on parle d'andrènes, à peu près 200 espèces. Elles font des nids également dans les sols, des nids très simples. Ce sont des galeries ramifiées qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine de centimètres en profondeur. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo-là. C'est une coupe. On arrive à voir voilà, la galerie verticale et au fond la cavité dans laquelle elle met l'œuf et le pollen. C'est une bouillie, hein, à chaque fois c'est une bouillie de pollen. On parle de pain d'abeille, là aussi. Juste une petite anecdote, reviens en arrière Bernard, sur les... Oui bon c'est pas grave, quand elles vont faire cette ponte au fond, le plus souvent ça va reposer, le pain d'abeille ne va pas reposer directement au fond de la cavité, il va reposer sur trois petits pieds, afin que ça soit ventilé, et on estime que c'est pour éviter un moisissement, quoi, voilà. Parce que le pollen est bien sûr frais et bon, c'est pour ça qu'elle le compacte aussi, de façon à ce qu'il n'ait pas de moisissure. Les alictes, de la famille des alectidés, 160 espèces. Donc vous voyez qu'à chaque fois, enfin, je ne vous ai pas fait la remarque précédemment, mais bon, on en a déjà vu toutes ces abeilles au jardin, mais à partir de maintenant, peut-être d'ailleurs, vous ferez attention. Mais on les prend le plus souvent pour des guêpes ou pour des abeilles, mais le plus souvent pour des guêpes. Alors les alictes, elles ont plutôt une préférence marquée pour les fleurs à pétales lisses, plutôt pour des fleurs voilà, qui sont de couleur blanche ou jaune. Elles vont sur les astéracées, les fleurs composées, et puis sur les rosacées, les apiacées. Mais c'est plutôt une espèce qui va sur les fleurs composées. Parmi les astéracées, on retrouve le pissenlit, la chicorée, l'astère, le sénesson, le tournesol et centauré. Voilà. Alors, ces fameuses galeries, on va retrouver des bourgades. On en a une photo juste en haut à gauche. Alors de loin, je ne sais pas, mais vous voyez des petits monticules qui correspondent justement à l'entrée de ces cavités. Ce sont les entrées des galeries. Voilà, j'ai parlé de 20 cm, mais ça peut aller aussi jusqu'à 60 cm. C'est une petite ramification. Donc, on en a certaines. Le nom latin, l'asioglossum, c'est donc dans la famille des alictes, qui creusent des nids plus argileux et... Des fois, c'est assez curieux. Moi, j'en ai jamais vu, mais on va retrouver une petite cheminée. Voilà. Donc, le schéma classique, ça va être pour ce qu'on avait vu. Bah, si, on en a une ici avec une petite cheminée. On a des galeries qui sont assez peu ramifiées, mais sur celle-ci, sur cette variété, on peut retrouver de grosses ramifications. En haut à droite, la cavité au fond dans laquelle elle a déposé, vous voyez, ce pollen. Alors, là, c'est pas toutes qui vont faire ces petits pieds afin que ça ne moisisse pas. Mais, et elle va déposer l'œuf dedans, hein, voilà, dans ce pain de... Les anthrophoridés. Donc, dans la majorité, creusent des nids dans le sol. Mais on en a une, je suis sûr, j'ai choisi de vous la montrer. Vous l'avez déjà vue. C'est l'abeille charpentière, la xylocope. Je pense que vous l'avez vu, cette grosse abeille, c'est assez gros. C'est l'une des plus grosses qu'on puisse avoir. Donc, l'abeille charpentière, elle, va faire son nid dans du bois mort, va faire des galeries. Vous avez un exemple ici. Donc ça, c'est l'entrée et la galerie dans sa phase horizontale. Donc, de la même façon, on va retrouver, elle va décomposer ce bois, elle va le pétrifier, elle va faire une cloison et on retrouve le pollen et la larve. Alors l'osmie fait partie aussi des abeilles solitaires. On considère qu'il y a à peu près 70 espèces. Ça, l'osmi, je pense que pour la plupart, si vous n'avez pas vu des halictes, des andrènes ou des mégachiles, je pense que les osmi, ça, vous en avez déjà vu. Cette petite, on les prend souvent pour des bourdons. Hein, la majorité des gens les prennent pour des bourdons, mais la taille est beaucoup plus petite. C'est vraiment très, très petit. Donc là, on a une osmi rousse. Les osmi, c'est celle, tout simplement, qui vous bouche les trous de vos fenêtres. Hein, vous savez, vos trous pour évacuer l'eau. C'est celles qui vous mettent de la terre, ou dans vos outils au jardin, qui vous mettent de la terre de partout. Voilà, ce sont les osmies. Alors, elles vont vraiment trouver tout ce qu'elles peuvent, toutes les cavités. Ça peut être dans le sol, ça peut être dans les rochers, ça peut être dans les bambous. Elles ont vraiment différents endroits, différents modes. Avec une préférence quand même pour tout ce qui est plutôt bambou, tout ce qui est ronce, tout ce qui est tige creuse. Hein, voilà. Bon, je pense que là on a fait le tour voilà les bourdons. Donc les bourdons, ça je pense que tout le monde connaît, très très important parce qu'ils ont une activité très tôt le matin et très tard le soir, et aussi très important par leur poids, puisqu'ils vont plutôt être adaptés à des fleurs qui vont permettre que le pistil bascule sur leur dos parce qu'ils ont le poids correspondant à ce que le pistil bascule, alors que sur d'autres insectes plus légers, ça ne le fera pas. Voilà. Donc très, très fournis en fourrure, donc ils vont capter énormément de pollen. Là, il y a un autre mode de c'est les femelles fécondées, elles, à la différence des abeilles solitaires qui pondent et on aura les naissances ensuite. Là, on a une femelle qui va hiverner. Elles entassent le pollen donc dans une coupelle de cire, donc ça je vais vous montrer après, dans une coupelle de cire où elles déposent les œufs. Et le plus souvent, elles vont essayer de trouver des nids de rongeurs, des nids, ou même carrément des nids d'oiseaux. Ça arrive, hein, dans lesquels elles vont fonder leur nid. Voilà. La suivante, justement, vous avez un nid ici. Ça, on en trouve. Ça peut arriver hein, quand on arrive à en trouver. Vous avez les œufs, les bourdons qui sont en train de naître. C'est plutôt dans des nids. Hein, ça, on va plutôt les retrouver dans des nids d'oiseaux ou dans des nids de rongeurs. Ils adorent les nids de rongeurs. Alors en haut, je vous ai mis le plus commun qu'on va retrouver dans nos jardins, ça va être le Bombus terrestrus, le bourdon. Donc, c'est pas facile, mais vous retenez qu'il y a une raie jaune sur l'abdomen, une raie jaune sur le thorax, et le bout est blanc. On va retrouver aussi souvent le bourdon des jardins. Très difficile de différencier les deux. La seule différence, c'est que la bande jaune qui était sur le thorax, on va la retrouver jointive, en fait, à l'abdomen et au thorax. Pas évident à voir, hein. Mais après, quand on a détecté, voilà, on sait reconnaître les deux. C'est les plus courants. Alors, on a des pollinisateurs efficaces pour l'agriculture. J'ai pris deux exemples. L'exemple de cette abeille découpeuse de feuilles, la mégachile, qui a un rôle quand même assez important dans l'agriculture, parce que pour polliniser la luzerne, de plus en plus en Amérique du Nord, ils sont obligés de faire appel à des colonies carrément de mégachiles. Donc ça s'achète, ça s'élève, et ils sont obligés d'implanter parce que la nature ne supplée pas justement à cet apport de mégachiles. Bien évidemment, ils ont choisi la rotonde du tas parce qu'elle est la plus adaptée à la pollinisation de la luzerne. En bas, on va retrouver l'osmi avec le bourdon, donc eux aussi dans l'agriculture, mais surtout dans tout ce qui va être culture fruitière et puis les vergers, parce que justement, ils ont une activité très tôt le matin, hein, ils ont un seuil thermique d'activité qui va leur permettre de travailler très tôt et très tard le soir. Également, ces deux espèces, enfin, surtout le bourdon, ça s'achète, s'élève et se met dans les serres de façon à avoir sur place la colonie pollinisatrice. Alors, là, des pollinisateurs efficaces pour la biodiversité. J'ai pris deux exemples. deux exemples. La mégachile Colostoma campanularum qui va exclusivement, presque exclusivement sur les campanules. Ça, j'ai choisi cet exemple pour vous montrer l'interdépendance en fait entre simplement une plante qui est dépendante de cet insecte et l'insecte qui est dépendant de la plante. On a un deuxième exemple avec l'Andrène florea qui ne va que sur la bryone dioïque. Et sur la bryone dioïque, bien évidemment, est dépendante de cet insecte. Donc ça, c'est pour vous démontrer un petit peu que sans ces insectes, la biodiversité peut disparaître. Voilà. Donc, au-delà du simple rendement, on sait que la qualité germinative des graines issues des fleurs visitées par les abeilles est supérieure à plus de 10% à celle des graines produites par les fleurs pollinisées par le vent. D'où l'intérêt de nos insectes, de la présence de nos insectes. La FAO, c'est un organisme des Nations Unies, c'est Food Agriculture Organization. Donc, on estimait que sur 100 espèces culturales, qui assurent 90% de l'approvisionnement alimentaire de 146 pays, 71 sur ces 100 espèces sont pollinisées par les abeilles. Donc, essentiellement les abeilles sauvages, mais on sait qu'il y a quand même le rôle des deux sur cette pollinisation. Voilà. Donc, biodiversité, agriculture, insectes, pollinisateurs. Des liens essentiels à préserver. Les insectes pollinisateurs sont plus efficaces, on a déterminé, il y a eu des études, qui ont prouvé que ces insectes pollinisateurs étaient beaucoup plus efficaces que leurs cousines domestiques. Pour plusieurs raisons. L'abeille mellifère, elle, quand elle va prélever ce pollen sur les fleurs, il va toujours être mélangé avec du nectar, donc avec ce sucre que fabrique cette eau sucrée que fabriquent les fleurs. Et le fait de qu'il soit mélangé va réduire la viabilité du pollen. Donc ça va forcément donc induire une fructification inférieure aux abeilles solitaires. Les bourdons, la plupart des abeilles sauvages donc, transportent majoritairement ce pollen à sec, surtout les bourdons, dans des brosses de poils situées au niveau des pattes postérieures ou de la face ventrale sur le mégachile. Voilà. Donc ce pollen, lui, reste beaucoup plus viable, évidemment, que celui qui était ramassé par les abeilles domestiques. Deuxième raison, les abeilles domestiques sont beaucoup plus fidèles que les abeilles sauvages à leur source de nourriture. Le plus souvent, elles vont privilégier une plante individuelle quand il y a une grosse floraison sur un champ. Alors que les abeilles solitaires, elles, vont plutôt privilégier la diversité. Voilà. Les plantes nécessitent une pollinisation croisée, ce pollen devant être transporté d'une plante vers une autre. De la même espèce, les abeilles sauvages procèdent ainsi bien davantage. On s'est aperçu aussi que la fructification était accrue. Voilà. On sait qu'une mauvaise pollinisation entraîne un mauvais développement des fruits. Ça, on le sait. On s'est aperçu que sur des vergers où il y avait très peu de pollinisation, très peu d'insectes qui venaient polliniser, on avait des fruits qui étaient très peu développés, alors que sur des exemples sur des pommes, par exemple, avec une pollinisation sur des pommes, on retrouvait une pomme qui était bien développée, avec de jolis pépins, donc qui ultérieurement aurait permis à ce que cette pomme permette de régénérer un autre arbre de façon plus viable. Voilà. Sur la culture de tournesol, on sait que, par exemple, si on a des abeilles domestiques et des abeilles sauvages, on peut produire jusqu'à 5 fois plus de semences, pour la semence. Hein. Voilà. Donc l'augmentation de la fructification induite par les pollinisateurs sauvages, elle est 2 fois plus élevée, ça c'est des études qui ont été faites, que celle induite par les butineuses domestiques. Voilà. Malgré tout, le taux de fructification maximum n'est atteint que lorsque ces parcelles sont visitées à de nombreuses reprises Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que ça soit aussi visité à la fois par les pollinisateurs sauvages, mais également par les abeilles mellifères. Donc on a aussi un butinage sélectif dans ces liens essentiels à préserver, parce que le butinage sélectif, vu le nombre et la diversité des pollinisateurs sauvages, voilà, on aurait pu espérer que la disparition de quelques espèces n'ait pas d'impact notable sur la pollinisation. Et il y a eu une étude, sur du bourdon, ils ont simplement enlevé l'espèce la plus abondante sur une zone de butinage, et ils ont constaté que les pollinisateurs deviennent moins sélectifs. Ils se nourrissent, donc plutôt que de butiner une seule espèce de plante, ils se nourrissent sur 4 ou 5 espèces différentes et ils mélangent les pollens. Donc l'efficacité de la pollinisation, elle s'en trouve réduite. La quantité de pollen spécifique déposée sur une plante n'est pas suffisante alors. Alors qu'est-ce que l'on peut faire, évidemment, pour que ces insectes... qu'est-ce qu'on peut leur apporter? On peut limiter l'utilisation des insecticides. Quand leur usage s'impose, moi j'ai testé la mention utiliser un produit avec le label abeille, mais j'ai testé, ça marche pas. Ouais, ça c'est bien joli, c'est sur les papiers. Ce label abeille, c'est censé protéger, enfin ne pas tuer la grande majorité de nos abeilles. J'ai testé, il y a des mortalités identiques. Voilà. Je pense que c'est plutôt un usage raisonné des insecticides qu'il va falloir avoir. Il va falloir favoriser surtout les habitats favorables. Les habitats favorables, ça va être tout ce qui est les murs, les haies, surtout les haies. Je vous ai parlé des champêtres, mais au fond de son jardin, des broussailles que l'on laisse en tas, ça c'est très important. Mais les champêtres, je pense que c'est une bonne piste parce que on a, avec le démembrement, on a enlevé la majorité des haies et on s'aperçoit maintenant par des mesures de replantation qui sont financées par le Conseil général, hein, que dès qu'on remet des haies, on a de retour des insectes, mais ce qui est le plus important aussi, c'est qu'on a aussi le retour de la faune. On a aussi le retour des hérissons, on a aussi le retour de tous les animaux. Alors, restreindre l'utilisation des herbicides, ça de toute façon, ça nous guette demain, parce que c'est à nos portes. Déjà, l'utilisation en agriculture, ça va être de plus en plus réduit, mais je pense que c'est surtout l'utilisation domestique. On sait qu'en France, surtout en France, on est les principaux utilisateurs d'herbicides. Et ça, dès demain, en principe, dès 2016, il y a des mesures strictes où ça va être fortement limité. Donc l'utilisation, déjà, naturellement, on va déjà en avoir beaucoup moins. La plantation des haies, j'en ai parlé, avec pour la plupart des haies, il faut savoir que toutes les haies sauvages sont quand même des haies mellifères. Moi, quand j'ai replanté une haie avec le Conseil général, j'ai demandé à avoir que des espèces mellifères. La dame m'a dit, mais non, mais tout est mellifère dans les champêtres. Hein. Alors l'avantage de la haie champêtre, c'est qu'elle fleurit du début du printemps jusqu'à l'automne et que les étalements de floraison permettent aux abeilles de trouver la source de pollen, puisque on sait que le pollen, c'est le manque aux abeilles qui favorise en fait toute leur maladie et dans ce qui était polyfactoriel tout à l'heure, c'est la clé, c'est le pollen. Alors éviter la destruction systématique des mauvaises herbes. Alors des mauvaises herbes pas si mauvaises que ça, puisqu'on dit toujours mauvaises herbes, mais la plupart des mauvaises herbes sont des bonnes herbes pour les abeilles. Donc de la même façon, on a toujours cet usage de la fauche au bord des routes, des talus, dans nos jardins. Et là aussi, il faudrait avoir une fauche beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus tardive. Alors l'équilibre d'un milieu dépend de la diversité des espèces animales et végétales qui la composent. Ça c'est une... Voilà. Alors, je pense que d'un point de vue citoyen, au fond de notre jardin, on a une action. On peut faire quelque chose pour ces abeilles solitaires. On peut fabriquer ces hôtels à insectes. Ces hôtels à insectes, c'est assez facile. Alors, j'en ai mis plusieurs. On va, bon, simplement, j'ai mis, là c'est pour la photo, le texte, on va pas s'y attarder. Reviens sur la précédente si c'est possible. Voilà. C'est tout simple. On peut mettre à la fois de la paille. On va avoir des là, on va favoriser justement la nidification des chrysopes. Chrysopes très important pour le jardin parce qu'ils se nourrissent exclusivement de pucerons. On va pouvoir mettre des fagots. Là, on va plutôt attirer des syrphes. Hein, des fagots de bois. On va plutôt, là, on, dans un autre casier, on peut mettre des pots de terre. On va attirer des perce-oreilles. Là aussi, les perce-oreilles, c'est pour les pucerons. Les bourdons, c'est plutôt dans des morceaux de bois, voilà, dans lesquels on peut faire des trous. On peut avoir des rondins, de l'écorce, on peut avoir des briques creuses, du foin, bon, j'ai dit de la paille tout à l'heure. Des abris à l'intérieur dans lesquels on va retrouver les coccinelles. Et puis des vieilles branches comme ça, où on va retrouver tout ce qui peut être scarabée. Voilà, ça c'est une autre proposition. Alors ça reste aussi très joli et esthétique.
Ouais. Ah, la dernière.
Ouais. Dans un jardin, ça, ah, ça a une touche quand même. Ouais. Alors oui, il y en a une dernière. Bon, ça aussi c'était pour vous montrer un petit peu. Et la dernière, moi, elle me plaît beaucoup, parce que je pense qu'elle est à la portée de tout le monde, même du plus mauvais bricoleur. Et à condition, je pense, d'y rajouter un toit étanche, bien sûr, en haut, pour pas que la palette se dégrade. Mais là, ça laisse libre cours à votre composition. Alors, il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Le bonheur pour une abeille est d'exister, pour l'homme de le savoir et de s'en émerveiller. Donc les abeilles, ce qu'elles ont besoin, ce dont elles souffrent, c'est de la méconnaissance de leur existence. Parce que c'est clair que quand on s'attarde justement que sur les abeilles domestiques, bon, c'est déjà une catastrophe. Mais si on connaît déjà toutes les autres abeilles et leur rôle, de les connaître, évidemment, on mesure les conséquences de leur perte. Hein, voilà. Alors, j'ai juste mis quelques liens. Je pense que Bernard m'avait expliqué qu'après, comme c'est en ligne, c'est ça, on peut retrouver un petit peu. Moi, j'ai mis ce qui me semblait être le plus pertinent. Pour la compréhension et puis de ces abeilles solitaires.
Merci.
Bravo.
Bon, merci Christophe. On va passer aux questions. Vous connaissez un petit peu la règle qu'on applique au café, à la pupe en vol, à savoir. Un nombre de questions un petit peu limité pour être vers les 9h30, 21h30, 40 dans la salle à côté pour partager ce que chacun a apporté. Mais aux questions. Donc sur l'exposé que tu as fait, la présentation que tu as faite, tu as couvert l'essentiel de toutes les abeilles, tous les insectes pollinisateurs et tu as bien focalisé sur les abeilles solitaires, toutes ces abeilles méconnues. Et tout ce qu'on fait aux abeilles solitaires, tous les dangers, toute leur mise en danger actuelle, bien ça concerne évidemment directement les abeilles domestiques. Donc, il y a quelques apiculteurs, je le sais, dans la salle aussi, donc on va peut-être en profiter. Question ? Oui, madame.
Est-ce que le fait d'avoir des hôtels à insectes l'hôtel insecte, il est sur un seul lieu. Est-ce que le fait, justement, de forcer un peu la cohabitation entre plusieurs variétés, c'est intéressant ou... Je me disais, dans ces hôtels insectes, du coup, ils se retrouvent un peu en concurrence par rapport à l'habitat, je ne sais pas.
Non, parce que dans l'hôtel insecte, en fait, on va cibler une variété d'insectes. Donc entre eux, il n'y a aucune interaction et il n'y a aucune gêne. Hein. La question qu'on peut se poser sur les hôtels à insectes, je l'ai lu sur Internet, c'est malheureux. Bon, ça reste un geste, mais c'est sur leur réelle efficacité. L'hôtel à insectes, je pense qu'il a un côté esthétique qui est intéressant. Il a un côté surtout pédagogique, parce que ça va vous permettre de vraiment voir ces fameuses abeilles. Sur sa réalité pour sauver les abeilles, je pense que ça va être plutôt au fond de votre jardin, de mettre plutôt son habitat naturel, c'est-à-dire quand vous coupez les bambous, au lieu de les brûler, vous en laissez quelques-uns, vous les laissez en fagots. Les branchages, pareil, quelques morceaux de bois dans lesquels vous les aidez pour les espèces xylophages, vous faites quelques trous, mais dans la nature, elles n'ont pas besoin de notre perceuse, donc elles se débrouillent quand même aussi, on pourra me répondre. Mais plutôt de laisser, de savoir quels sont ce qu'on met dans l'hôtel à insectes, le mettre au fond de son jardin. Voilà. Mais néanmoins, pour l'avoir vu, pour l'avoir fait, l'hôtel à insectes, il a vraiment un très bon rôle pédagogique. Les osmies, on peut mettre des petits tubes en plastique, et ça vous permet de voir, voilà, de voir cette fameuse ponte. Ça ne va pas nuire à leur développement, mais c'est ce qui est le plus frappant. Hein, voilà. Vous voyez vraiment, avec les osmies, on voit vraiment bien.
Est-ce qu'ils vont pas nous venir nous casser les pieds quand on boit le pastis ?
Non, non plus. Non plus, parce que, on va dire, la seule espèce qui va être agressive, sans, moi j'aime pas trop ce terme agressif, parce qu'elle défend, elle défend sa colonie, c'est l'abeille domestique. Et encore que si on est vraiment devant, on peut avoir des abeilles au jardin, des abeilles domestiques. Mais les abeilles solitaires, elles ont cette particularité, c'est qu'elles ne sont absolument pas agressives. Quand on a ce genre d'hôtel, quand les osmies viennent dans ce genre de rondin faire les trous, vous pouvez, au moment où elles rentrent dedans, vous pouvez parfaitement passer la main, vous ne serez absolument pas piqué. Oui.
Une information, une question, une information pour la plantation des haies dans la Haute-Garonne. Effectivement, il y a arbre et paysage d'Autant qui est basé à Yves-Vive.
Oui.
Qui aide
les particuliers.
Les particuliers d'une parcelle. Me semble-t-il, il y a peut-être un seuil minimum en termes de surface pour la plantation de haies libres, enfin d'espèces qui ne sont pas des espèces importées, etc.
Oui.
Donc des espèces locales, de végétaux. Et qui travaille également avec une association que nous avons la chance d'avoir au Fousseret,
au Fousseret,
qui aide à la plantation de haies, notamment avec les scolaires, avec les particuliers.
Oui.
Et qui a également la particularité de favoriser qui fait la promotion des hôtels à insectes et des nichoirs, sachant qu'il y a, il faut se méfier de ce qu'on achète dans le commerce, parce que un truc tout bête, le bois qui sert à la construction des hôtels à insectes dans le commerce est un bois traité.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Il faut faire très attention à ça. Donc dans le choix de la qualité du bois. Pour les nichoirs et pour les hôtels, il y a des petites choses comme ça. Donc, ces associations locales, il y en a beaucoup dans beaucoup de départements. On a la chance d'en avoir. Elles s'appellent les fous du bois ou Fousseret. Donc, c'est des fous et des folles tout à fait sérieux.
Au départ, c'est une association pour la protection des oiseaux, voilà. Il me semble. Parce qu'ils fabriquaient des nids. Ils sont venus nous rendre visite à la maison. Oui, c'était une association d'ailleurs quand on a eu le front noir asiatique. Ouais, tout à fait. Oui, ils nous avaient aidés parce qu'on avait fabriqué des nids. Ils avaient fabriqué plus de 200 nids, voilà, de pièges. Donc voilà. Les fous des bois travaillent avec Arbres et Paysages d'Autant. Arbres et Paysages d'Autant, c'est pour les particuliers. Pour les agriculteurs, bien évidemment, on est subventionné. On peut le Conseil général nous subventionne jusqu'à 1000 mètres de haies, donc jusqu'à 1000 arbres dans l'année. Et bon, il n'y a pas de limite à Arbres et Paysages d'Autant, à part le côté financier, bien évidemment. Ouais. Mais eux, ils ont des variétés aussi intéressantes. Hein.
Alors ma question maintenant, c'est le fait de favoriser la cohabitation de l'abeille domestique et des abeilles sauvages. Alors moi j'ai des échos en fonction des informations, comme quoi la cohabitation n'est pas évidente parce que les abeilles sauvages seraient farouches. Donc le fait qu'il y ait un ruchet, il n'est pas conseillé de mettre un hôtel à insectes à proximité d'un rucher. Alors, est-ce qu'on a suffisamment d'informations pour savoir qu'est-ce qui est... Ça complète la question d'Adam sur la cohabitation des abeilles sauvages entre elles, déjà. Entre la domestique et le sauvage, il y a beaucoup d'interrogations.
Je pense que ce n'est pas sur leur nidification qu'il y a un problème. Ça va être plutôt sur les fleurs. Il va y avoir une concurrence plutôt pour la nourriture. Voilà. C'est plutôt là.
Mais il y a pas la proximité avec des phéromones, des hormones qui fait qu'elle serait... On n'a pas d'informations à ce niveau-là.
Non, ça, et puis j'ai pas de connaissances sur ça, et puis j'ai pas vu dans mes recherches.
D'accord.
Moi, j'ai quelques informations là-dessus. La concurrence entre insectes, bon, elle n'est pas réelle. En pollinisation, sur des parcelles, bon, même sur des expérimentations faites par nos amis de chez Syngenta, sur des parcelles de semences, la cohabitation de l'abeille domestique et des pollinisateurs, de l'abeille naturelle, des abeilles sauvages, on va dire, augmente le pourcentage de pollinisation. C'est-à-dire que l'abeille, si on arrive à isoler des parcelles, le tournesol par exemple, qui n'est que de l'abeille domestique, la pollinisation, même si elles sont nombreuses, la pollinisation est moins bonne que quand il y a, on va dire, concurrence, mais fréquentation croisée. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes, mais qui sont assez... dire que, bon, de toute façon, les nichoirs comme ça, même s'ils sont occupés, même un truc de cette grandeur, il n'y aura pas un surcroît de pollinisateurs. Il y a quand même beaucoup de parasites aussi, qui parasitent les pollinisateurs dans les nichoirs.
Et des guêpes. Et beaucoup de guêpes. Et les guêpes solitaires. Alors, aussi. Ouais.
Moi, je fais la guêpe, bon, personne ne le souhaite, quand on n'est quand même pas un insecte nuisible. Quand on voit le nombre de... C'est aussi un insecte qui mange beaucoup de larves d'autres insectes qui sont...
C'est le prédateur.
Donc c'est le prédateur aussi. Bon, la cohabitation pour l'être humain, des fois, c'est un peu gênant, mais elle a un intérêt assez important. Même pour nous, apiculteurs, pour manger les larves de soutien quand on stocke les os, plutôt que de mettre des produits quelconques, c'est mieux.
Ouais, moi j'ai coutume de dire aux enfants justement que la guêpe, bon, quand elle nous dérange, qu'il y a un nid à proximité du lieu où on vit, on peut envisager de s'en débarrasser, mais que c'est le prédateur quoi, dans la nature. Hein. Donc moi je leur explique que c'est le lion de la savane, et que la guêpe, on doit préserver la guêpe, hein, on n'a pas plus de droits. Moi c'est ce qui me gênait d'ailleurs dans ce piégeage avec les... Pour le frelon asiatique, c'est qu'on attrapait beaucoup de guêpes, hein, et on attrapait beaucoup de Vespa cravo, quoi, le frelon européen. Et on faisait presque plus de dégâts que le frelon asiatique.
Oui. Un instant, s'il vous plaît. On n'a qu'un seul micro, on n'a pas de micro baladeur, ça viendra peut-être une prochaine conférence. Donc essayez de parler un peu plus fort, parce que je vous signale qu'on est très nombreux et qu'il y en a dans la deuxième partie de la salle au fond. Donc il faut qu'ils puissent entendre aussi, donc essayez d'être un peu plus fort. Donc vous aviez une question, il y a madame aussi. Donc madame, vous pouvez reposer votre question, je vous prie.
Alors le frelon asiatique, on voit un petit peu moins de nids, donc de là à penser qu'il y en a moins, je ne sais pas, mais on constate quand même une baisse des nids. Je ne sais pas toi, si tu en as beaucoup attrapé cette année.
Oui, mais, de notre côté, suivant les piégeages qu'on fait au printemps pour attraper
les fondatrices.
Je ne veux pas me vanter, mais je suis par notre secteur.
Ouais.
On est tranquille.
On
en voit un par-ci, un par-là, terminé. Par contre, pour revenir sur les guêpes, je disais à Denis, moi j'ai eu un rucher complètement bouffé par les guêpes. Et elle rentre dans les ruches, puis il fallait voir.
Et puis.
Oui, mais elles ont mangé les abeilles et les larves et tout. Donc si vous voulez, dans le piégeage, bon, on dit toujours du piégeage sélectif, je suis tout à fait d'accord.
Bah, elle fait partie des prédateurs.
C'est pas évident.
Oui, quand on a nos ruches qui s'affaiblissent...
Non, c'était un rucher costaud.
Ah, en plus.
Voilà.
Il y en a eu beaucoup cette année de guêpes. Je pense que ça aussi, c'est dans les, comme j'en parlais tout à l'heure, dans les aléas climatiques, ça va dépendre des années. C'est vrai qu'on a eu des hivers qui n'étaient pas très froids. Donc la guêpe, elle a un mode de reproduction où c'est la fondatrice, comme pour le frelon, hein, qui va hiverner et elle redémarre sa colonie au printemps. Et évidemment, si on a des hivers un peu plus rudes, un peu plus froids, ça épure un petit peu au niveau de la quantité. Donc, je vais répondre à la dame pour le. Non, c'était par rapport. On constate quand même beaucoup moins de nids. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant c'est l'hiver. Là, on voit bien dans les arbres, on voit quand même beaucoup moins de nids de frelons asiatiques. Donc. On pourrait penser, je pense, qu'il y a un étalement de sa population. Les spécialistes l'avaient dit au début, hein, ça c'est un développement exponentiel au début, et puis après, il y a une régulation. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même la Pia Plastron qui s'en occupait fortement du frelon asiatique, et je serais bien curieux de voir une étude aussi sur le guêpier. Parce qu'à mon avis, le guêpier, bon, on en a ici dans le Volvestre. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'avais des guêpiers à la maison, à la ferme. J'ai toujours des guêpiers quand j'ai des ruches à proximité, c'est-à-dire à la ferme. Ils ont nidifié chaque année quand j'avais des ruches à la maison. Donc, voilà. Bon, mais là, ils se nourrissent. Bon, le guêpier, il porte faussement son nom parce qu'il se nourrit quand même de beaucoup dans son régime alimentaire de beaucoup d'abeilles. Mais le frelon, apparemment, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe par rapport à ça. Et on m'a parlé de la Pia Plastron. Ouais, des associations comme les Fous des Bois là, m'ont donné des informations comme ça.
C'est quoi la Pia Plastron?
La Pie noire et blanche.
Ah, d'accord. Ouais,
la Pie voleuse.
Très bien. Voilà. Okay.
Ouais. Il y a aussi la huppe faciée.
Et la huppe faciée également. Ouais. Et c'est bon, le guêpier, moi j'aimerais, enfin je pense qu'il a une prédation parce qu'en plus c'est un migrateur qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années, il n'était pas sous nos contrées, il était plutôt sur la région méditerranéenne, il montait pas très haut et je pense que il doit trouver une niche écologique avec le frelon. Ah oui, parce qu'il nidifie dans les falaises. Ouais.
C'est bien un oiseau, le guêpier?
Le guêpier, c'est un oiseau.
Ah, très bien. Voilà.
Le guêpier, c'est un oiseau. Alors, sa vie, vous ne le verrez jamais individuellement, vous allez toujours le voir en groupe. Il est très farouche, alors c'est assez difficile à approcher, et vraiment multicolore, avec des reflets très, très argentés. Ouais.
Il y en a. Il y a une madame au fond là-bas, derrière.
Une question de toutes les espèces des abeilles solitaires, ce que tu as dit, sont sauvages, c'est clair. Mais est-ce que toutes les abeilles sauvages sont des solitaires aussi? Ou est-ce qu'il y a encore des abeilles sauvages qui vivent dans
Oui, dans la liste, elles sont toutes solitaires, donc elles passent leur temps. Enfin, elles ne font en opposition à l'abeille domestique qui, elle, a besoin. L'abeille domestique, elle a besoin de s'occuper de la reine, parce que c'est la reine qui va pérenniser la colonie pendant 4 à 5 ans, pour la durée de sa vie. Les abeilles solitaires, elles ont pas besoin, à part le bourdon, puisque on avait mis le bourdon dans la liste. Le bourdon fait des colonies. Mais autrement, les abeilles solitaires sont, comme son nom l'indique, elles vivent toutes seules. Et leur seule préoccupation, c'est de trouver du nectar, du pollen, et de pondre des œufs dans plein de cavités, selon que ce soit de la terre ou vous avez vu les branchages, et de pérenniser l'espèce, comme font les abeilles. Mais les abeilles, elles ont besoin de fabriquer du miel pour pouvoir passer l'hiver en colonie. Voilà, c'est ce que je dis aux enfants, elles ont besoin d'avoir des provisions. Alors que les abeilles solitaires n'ont pas le souci de faire des provisions. Voilà. Oui,
monsieur. Pour apporter une précision au niveau des frelons asiatiques, c'est vrai que des nids, on n'en voit plus beaucoup pendus aux arbres. Et faites très attention par chez vous, parce que vous pouvez l'avoir dans une et de l'orière dans un cabanon, dans un bûcher ou comme ça. Ils sont en train de changer de fonctionnement. Le regroupement de défense sanitaire, on a de plus en plus d'appels pour aller détruire des nids dans des endroits comme ça. En l'air, il y en a, mais pas autant.
Ouais, merci Jacques de préciser ça.
Voilà, pour essayer de rejoindre monsieur qui parlait des abeilles sauvages. Peut-être qu'il entend par là des abeilles domestiques, qui étaient domestiques et qui sont parties dans un tronc d'arbre.
Ah, la Pisciniifera dans la nature. Hein.
Donc nous aussi on dit que ce sont des abeilles sauvages.
Ah, oui.
Elles ne sont pas plus sauvages que les nôtres, seulement ces cas, elles sont libres. Voilà.
Elles sont pas exploitées.
Aussi on parle d'abeilles sauvages et on va les récupérer.
Alors au niveau des, oui, on peut en parler peut-être aussi au niveau des essaims sauvages, hein, ce qu'on appelle nous les essaims sauvages. Ben, ça dépend des régions. Il y a des coins où c'est vrai, il y a des apiculteurs qui disent que par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, où on trouvait des essaims sauvages, et puis il y a d'autres régions où il y en a. Pour ma part, au printemps, je ne sais pas trop où donner de la tête, que ce soit à Montesquieu-Rieux ou Carbone, et Jacques c'est un peu pareil, mais il y a quand même là-dessus un petit fait, c'est que moi j'ai l'impression quand même que dans la nature, elles arrivent à mieux s'en sortir que dans nos boîtes d'apiculteurs. Quoi. J'ai un exemple, hein, je ne comprends pas pourquoi... Des fois, je vais enlever des essaims dans des fenêtres où ça fait 7 ans, 8 ans qu'elles sont là-dedans. Il y a des champs de tournesol, il y a des champs de colza. Et là-dedans, elles arrivent à essaimer et elles arrivent à vivre. Donc, il y a des interrogations quand même comme ça aussi.
Monsieur, les traitements que les apiculteurs font pour les maladies.
Oui.
Ils utilisent des médicaments, des produits.
Oui, les traitements pour le varroa. Il y a une exposition à un produit, c'est vrai, supplémentaire.
C'est l'argument de défense, d'ailleurs, des fabricants de pesticides, d'insecticides, en disant, mais non, c'est les produits qu'ils utilisent pour soigner leurs abeilles.
Oui, c'est toujours... Bon.
Là, ça me fait un petit peu intervenir, parce que... Je veux dire, bon, le problème des traitements faits par les apiculteurs sur les ruches, c'est que c'est quelque chose qui se pratique, qui se pratiquait avant qu'il se parle d'une façon généralisée du déclin des abeilles. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le déclin des abeilles pour les apiculteurs, il a commencé il y a une quinzaine d'années avec l'apparition d'une ou deux familles insecticides bien particulières. Donc, quand on parle de produits... insecticides dans la ruche, qu'on utilise pour les acariens, je suis d'accord. Mais moi, je travaille sur des études de pollen. Les pollens qui rentrent dans les colonies, en période floraison colza ou tournesol ou intermédiaire, sur une journée de récolte de pollen à la ruche, il y a entre 8 et 10 molécules qui rentrent dans la colonie, alors à des doses infimes. C'est pas les doses qui vont tuer le consommateur, mais pour l'abeille, certaines de ces molécules sont à des doses significatives pour avoir un impact sur la santé. Donc, il faut replacer le problème de l'exposé, de problème multifactoriel, c'est que dans le multifactoriel, on peut donner une échelle de chacun des éléments qui composent le multifactoriel. Les maladies des abeilles en sont un. Les pesticides en sont un autre, le changement de climat, mais ils ont tous une mesure, et actuellement, ce terme multifactoriel a tendance à niveler tout sur un même plan d'égalité.
C'était très bien c'était Happy Mondia qu'ils ont commencé à dire que c'était multifactoriel. Moi j'ai trouvé que c'était bien qu'on dise que c'était multifactoriel, parce qu'on commençait à envisager qu'il y avait d'autres facteurs que les insecticides. Seulement maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de coupables. Maintenant qu'on a dit que c'était multifactoriel, on n'a plus beaucoup de coupables. Il y a quand même une problématique là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'uniformisation en Europe sur ces causes de mortalité, ces quantités de mortalité, c'est encore des grands mystères. En Europe, il n'y a que 8 pays qui ont mis en place des protocoles d'études. Mais même parmi ces 8 pays, tout le monde n'est pas d'accord. En France, on a plutôt tendance à dire que ce sont les insecticides. Un exemple, en Belgique, ils ont plutôt tendance à dire que c'est une grande partie pour le varroa. En Espagne, ils ont tendance à dire que c'est pour la grande partie la nosémose, qui est une maladie que j'avais mis là, donc la nosémose serrana. Là. Et eux, les Espagnols, ont plutôt tendance à dire que c'est plutôt ça. Donc on n'est même pas d'accord entre nous sur les facteurs de mortalité des abeilles. Aux États-Unis, ils disent qu'il y aurait un autre virus maintenant, le syndrome d'effondrement des colonies, qui serait peut-être dû à un virus. Voilà. La clé, c'est le pollen. Hein. Le pollen pour les abeilles. Enfin, sachez que dans le miel, le miel porte très, 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 très peu les insecticides parce qu'il y a très peu de pollen. C'est la protéine du pollen qui porte les insecticides. C'est pas le glucide du miel. Voilà, je défends cette idée parce que souvent on a tendance à dire que, effectivement, quand on consomme un miel de tournesol qui provient d'une culture par rapport, on va dire, à un miel d'acacia. On a plus de chances d'avoir des grains de tournesol dedans qui portent des insecticides. Mais c'est surtout le pollen. Et c'est le pollen la clé de la survie de nos abeilles. La qualité des pollens. Là, il y a la quantité et la qualité.
On est presque au cœur du débat. Alors, il y a une question dans la hausse de notre ruche. C'est-à-dire le deuxième compartiment qui est au fond. Ta question, s'il te plaît. Oui, vas-y, plus fort.
C'est par rapport au monsieur qui demandait si par hasard les traitements pour lutter contre les varroas, c'est pas ça qui entraînait encore plus la chute, la disparition des abeilles. Alors moi, j'ai une petite abeille, vraiment pas beaucoup. J'essaie de les mettre dans des zones où il n'y a pas de traitement, etc. Et l'année dernière, on m'a fait l'essai sur la moitié de ma ruche de ne pas mettre
par expérience personnelle, parce que j'ai été aussi apiculteur dans des temps anciens, et oui, et pour dire très simplement qu'aujourd'hui, sur le débat sur la mortalité des abeilles, pour moi, mon avis, c'est que effectivement, c'est multifactoriel. On est bien d'accord. Mais ceux qui le répètent, ceux qui cherchent toujours à le prouver, qu'il y a d'autres facteurs, ce sont les firmes qui fabriquent les herbicides et les insecticides. Voilà. Ils ont les moyens financiers, c'est eux qui ont leurs experts dans les commissions qui décident que tel traitement va être autorisé ou pas. Alors, bien sûr, on sait très bien qu'il y a le varroa, qu'il y a la nosémose, qu'il y a des fois des comportements d'apiculteurs qui sont inconséquents, hein, parce que est-ce que tous les apiculteurs ne sont pas tendres, hein, faut savoir quand même aussi par rapport aux abeilles, c'est le moyen de vivre, c'est une production. Hein. Et ensuite, il y a les changements climatiques qui sont en jeu. On l'a bien vu sur ces deux printemps, ici dans le Volvès, il pleuvait, il faisait froid, il pleuvait. Au moment où la fleur d'acacia, eh bien, elle n'a rien donné quasiment. Hein. Au moment des pruniers sauvages, eh bien, il pleuvait, terminé. Donc ça fait 2 ans que les apiculteurs souffrent beaucoup ici. Voilà, c'est pas la mortalité. Partout, et c'est le changement climatique. Ensuite, on sait que dans l'air, on atteint maintenant des taux de concentration de tous les produits chimiques qui est à la limite. Et c'est sur le monde entier. Hein, ça a été publié, si vous le suivez, c'est récent. On a dépassé les 400 unités hein, pour 1000 cm3 dans le monde entier, que ce soit pôle sud ou pôle nord. Ça s'est répandu dans notre atmosphère partout. On est au seuil que l'on qualifie, on ne reviendra pas en arrière. Voilà. Donc, multifactoriel, mais moi je sais par expérience que lorsqu'on passait un coup de régent sur telle culture, eh bien nos ruchers, toutes nos ruches étaient nettoyées. Voilà. Pardon, j'ai pris un peu la parole, je la rends. Monsieur Vogel.
Vas-y. Je voulais savoir, il y a quelques années, il y avait ça,
je pense, une bonne vingtaine d'années, en plus. J'avais quelques doutes. Et j'ai vu en
face de parler. Je sais parler, c'est tout. Posez la question.
Dans une sorte d'autoclave qui montait à une température juste inférieure à la température risquant de tuer les abeilles, mais supérieure à la température de survie du vapeur. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Ce que je voulais savoir simplement, c'est ce qu'a donné cette expérience. Elle était lourde, elle était très lourde, elle était probante, très lourde, donc difficile à mettre en place. Mais est-ce qu'il y a d'autres expériences autres que les insecticides qui ont été mises en place?
Alors, on sait que sur des ruches très fortes, on s'est aperçu que justement, qui était capable d'avoir une chaleur un peu plus importante, ça cause des problèmes justement pour le varroa, pour son développement. L'autoclave, moi j'en ai entendu parler, mais je sais pas. Il y a plein d'expériences qui sont faites. Après, il y a d'autres. On peut ne pas mettre de traitement. On peut mettre les traitements qui ont une AMM. Et après, on peut mettre aussi. Il y a des huiles essentielles. Moi, je suis en train de tester ça en ce moment. Ça fait 2 ans. J'ai pas voulu faire l'apprenti sorcier avec les huiles essentielles. Donc, j'utilise un produit qui est fabriqué en laboratoire. Ce sont c'est sur de la vermiculite. La vermiculite, c'est la mousse des fleuristes. Donc c'est du camphre, de l'eucalyptus, du menthol et du thymol. Je sais pas lequel. Ça sent très fort. L'idée qui est poursuivie là-dedans, c'est surtout de créer un leurre olfactif. On sait que le varroa, c'est un parasite, donc tout parasite, il se calque très bien sur son hôte. Et lorsqu'une reine va pondre un œuf, il va être nourri au départ avec de la gelée royale, 3 jours, et ensuite avec du miel du pollen. À un moment donné, il va passer au stade de lymphe, on l'opercule et il va se transformer donc en insecte parfait. Au moment où c'est operculé, il y a une transmission hormonale. Et justement, cette transmission hormonale, c'est l'intérêt du leurre olfactif, c'est que le varroa, la femelle du varroa, soit perturbée par ce leurre olfactif et ne sache pas au moment où est décidé collectivement par les hormones ce moment où elles vont fermer les cellules qui sont prêtes à être fermées. Ça crée des gros dérèglements dans les ruches, même moi, les huiles essentielles, mais voilà, bien s'ils sont habitués. Puisque je parle de mon cas, moi j'ai modifié quelque chose qui, à mon sens, est très important, c'est que je ne nourris plus mes abeilles avec du miel. Je nourris plus mes abeilles avec du sirop. Je nourris mes abeilles avec du miel. Ça change beaucoup, mais ça c'est un choix personnel, parce que moi j'ai découvert en allant chercher le sirop que le sirop était fabriqué avec de l'amidon de blé. Donc j'ai dit, c'est pas possible que je continue à faire de l'apiculture, à cautionner une culture où on est obligé, parce que moi je comprends très bien que les agriculteurs sont entre le marteau et l'enclume, donc je jette aucun dévolu sur les agriculteurs. Ils ont besoin de mener une exploitation. Et croyez-moi, pour la plupart, pour les défendre, il y a beaucoup de jeunes qui, s'ils pouvaient se passer des pesticides, de toute façon ils y réduisent parce que ça coûte trop cher, mais il y en a beaucoup qui pourraient s'en passer. Mais le sirop qu'on utilise en apiculture pour complémenter les ruches, c'est du sirop qui est fabriqué à base de blé. Donc ça me semblait que c'était pas, enfin pour mon apiculture, c'était pas cohérent. Donc je leur réserve du miel. Évidemment, en tant que chef d'entreprise, c'est une hérésie parce que ce miel-là, c'est simple, hein, 1 kg de miel, c'est entre 12, 15, 13, enfin ça dépend des tarifs, 13 euros le kilo. Un kilo de sirop, je crois qu'il est. Enfin, maintenant ça a dû augmenter, mais il doit être un peu plus d'un euro ou quelque chose comme ça, Jacques. Hein, non, mais le prix, ça doit être ça, il me semble. Hein. Je te regarde parce que c'est pas parce que tu en utilises, mais il me semble que c'est un peu plus d'un euro. Donc entre 1 et 13 euros, vous voyez qu'il y a une sacrée différence. En tant que chef d'entreprise, c'est un peu une hérésie. Mais Moi, ça fait 4 ans que je nourris mes ruches au miel. C'est une grosse contrainte parce qu'il faut récolter ce miel, leur redonner ensuite, parce que j'ai un format de ruche moi qui me permet pas qu'elle rentre les provisions dans le corps. Hein. Ça, c'est une question technique, mais j'ai beaucoup moins de mortalité, ou du moins je m'en contente. J'ai des mortalités que j'arrive à expliquer, parce qu'il n'y avait rien de pire. Quand moi en 2009 je perds les deux tiers de mes ruches, des ruches, ben c'est le cas pour la plupart, hein, des ruches qui sont pleines de miel, désertées par les abeilles, et là on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc voilà. Et en 2009, quand j'ai décidé de nourrir mes abeilles au miel, d'essayer de changer, de bidouiller un peu sur les produits de traitement, d'essayer de trouver quelque chose un peu plus, enfin, qui me ressemblait et qui me contentait. J'ai aussi modifié ma façon de travailler, parce que pour moi c'était facile d'accuser l'agriculteur l'agriculteur à côté de mes ruchers, de dire de toute façon c'est l'agriculture qui est responsable, ce n'est pas moi. Mais je nettoyais plus du tout je désinfectais pas mon matériel, j'avais des pratiques, j'avais oublié plein de choses parce que j'avais un coupable tout désigné à côté de moi. Et moi, je dis quand même qu'il faut quand même que dans l'apiculture, on se remette déjà nous-mêmes en cause, et on a des pratiques qui sont peut-être pour certains, mais c'est mon adaptation de mon apiculture. Voilà. Je dis pas que c'est la solution. Je dis pas que c'est la solution, mais ça semble plus logique pour une abeille de manger du miel pendant tout l'hiver que du sirop d'amidon, sirop issu de l'amidon du blé, quoi. Voilà.
Jean-Pierre, une question.
Oui, tiens. Tu as parlé, Christophe, tout à l'heure, de la disparition totale des abeilles dans le Sichuan.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière, ou est-ce que c'est
cet ensemble... C'est une région, de ce que j'ai compris, qui est une très grosse région où il y a des vergers. Et la disparition des abeilles est due aux insecticides, aux traitements. J'avais mis une photo là où on voit dans les vergers, voilà. Donc c'est une région, c'est une très grosse région productive arboricole, et c'est la raison pour laquelle ils ont détruit toutes les abeilles qui étaient dans la région, et il y a surtout plus du tout d'apiculteurs qui veulent amener des ruches.
Okay, donc c'est les insecticides dans ce cas-là.
Ouais, là c'est plutôt les insecticides. Merci. L'usage intensif.
D'accord.
On va dire parce que.
Madame Françoise.
C'est qu'en fait, c'est un peu en suivant de ça. Je sais que par exemple aux États-Unis d'Amérique, ils emmènent les abeilles dans des camions. Voilà, ils les déplacent d'une région à une autre, ils les épuisent. Enfin bon, voilà. Et j'aurais voulu savoir si, par chez nous, en Europe et particulièrement en France, ce genre de technique d'aller épuiser les abeilles en les emmenant partout.
Ouais, à ma connaissance, c'est vraiment purement américain. Hein. C'est sur la culture de l'amande et. Les chiffres, il me semble, ça doit être 90% des colonies, 80% des colonies qui transhument sur la récolte d'amandes au moment de la floraison. Là. C'est...
Et donc, par chez nous, il n'y a pas ces...
Je ne crois pas, hein, il me semble. Aussi gros que ça, que cette culture de l'amande, je ne pense pas. Moi, dans le changement de mes pratiques, puisqu'on parle de transhumance, en apiculture on parle de transhumance, c'est vrai que j'ai essayé de ne plus transhumer. Bon, moi je venais du sud-est, donc dans le sud-est on transhume énormément, on va sur la lavande, on va sur la garrigue, parce qu'aussi il y a un facteur de stress. J'ai commencé à travailler sur un facteur de stress sur les abeilles. Je me suis dit, je vois pas pourquoi tous les animaux, même les humains, on souffre du stress, je vois pas pourquoi les insectes n'en souffriraient pas. Et en travaillant sur ce stress, je me suis dit, si je transhume plus, il faut que je trouve des ruchers où, par contre, elles vont avoir, parce que le secret, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le pollen, elles vont peut-être pas avoir une quantité énorme, mais elles vont avoir une quantité sur la durée, entre le printemps et l'automne, suffisante pour pouvoir s'en sortir. C'est une des clés. Mais juste un petit détail, c'est que... ça serait trop facile dans l'apiculture d'aller dans les endroits où il n'y a pas de culture, d'aller où il n'y a pas de traitement. Mais on sait que l'année dernière, par exemple, il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont eu des pertes énormes à la montagne. Donc à la montagne, on est plutôt dans des zones censées être moins exposées, à part par les pluies, avec voilà. Mais l'année dernière, il y a eu des cas, surtout dans l'Ariège, il y a eu des cas de pertes très très importantes. Et a priori, ça serait sur les produits de vermifugation des moutons. Ils auraient changé de molécule. Voilà, sur les animaux, ils auraient changé de molécules. Et là, il y a eu un impact très très fort sur les abeilles, avec des mortalités. Il y a des gens qui ont perdu 90% des ruches. Non, elles transhument pas, elles sont sur leur zone. Mais par contre, l'impact, quantifier la mortalité des abeilles sauvages, pour l'instant, c'est très difficile. La seule chose qu'on peut faire, nous apiculteurs, c'est qu'on... D'ailleurs, bon, le syndicat apicole dit l'abeille est sentinelle. On est sentinelle, on jette un pavé dans l'eau, on dit nos abeilles domestiques subissent ces conséquences. Je ne vois pas pourquoi les abeilles solitaires ne le subiraient pas. Mais il y a très peu d'études. Il y a très très peu d'études.
Monsieur Rougel, juste pour répondre en partie à Jean-Pierre, en ce qui concerne l'absence d'abeilles dans le Sichuan, ça a été une décision politique, et en particulier une décision politique de Mao, lors de la révolution culturelle, où le Sichuan, dans le Sichuan, il y avait beaucoup de moustiques, et beaucoup d'insectes piqueurs. Et il a décidé de les éradiquer complètement. Okay. Donc il y a eu une dose massive d'insecticides qui a été versée, qui a tué tous les insectes.
Okay. On a eu ce cas-là, nous, après la fièvre catarrhale. Quand on a eu cet épisode de fièvre catarrhale, il y a eu des traitements qui ont été faits par les pouvoirs publics sur toutes les zones, mares, voilà. Et là, il y a eu des pertes énormes. Hein. Donc ça a été assez disparate selon les apiculteurs, mais on pouvait presque suivre à la trace les endroits où il y a eu les traitements. Le souci aussi, c'est qu'après, même au niveau du recensement des mortalités chez les professionnels, alors depuis, à un moment donné, on n'était même plus censé faire une déclaration annuelle de cheptel, donc ce qui rendait encore la chose encore plus compliquée pour faire le comptage réel des ruches. Mais même là, c'est pas évident d'avoir des chiffres très précis.
Félix.
Sur la mortalité des abeilles, il y a quelques années, je crois que c'était l'INRA, il me semble que c'est Grenoble, avait sorti une étude sur la concentration, notamment c'était par rapport aux régions, etc. Il y avait un seuil à partir duquel on disait c'est dangereux, et un seuil à partir duquel c'était pas dangereux. Et eux avaient sorti une étude en disant qu'avec un millième, donc très 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 en dessous des seuils qui étaient sur lesquels portaient les études, ces semences enrobées, en fait, au printemps, quand elles perlaient, une concentration à 1000 ou 10 000 fois moins que l'autre entraînait une mortalité. Et d'un seul coup, donc j'avais entendu ça au moment du débat entre les semenciers qui poussait des cris d'orfraie par rapport à cette étude-là. Et donc après, dans tout ce que j'ai lu sur la disparition des abeilles, on entend les causes multiples, etc., etc. Mais cette étude-là, on n'en entend plus parler. Alors, est-ce que tu as des nouvelles ?
C'est toujours une guerre de protocole, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on est en France, c'est franco-français. Hein. C'est toujours la guerre des protocoles. On parle de dose létale, mais dans létale, ça veut dire que ça tue. Donc, de toute façon, le produit, c'est un insecticide, il tue. Et on considère qu'il y a une dose à partir de laquelle c'est acceptable qu'il y ait une quantité d'insectes qui meurent. Voilà. Alors après, ils sont pas d'accord entre ce fameux seuil. Et puis ensuite on a des incertitudes, parce que des fois il y a aussi entre un insecticide et un fongicide des mélanges qui ont été détonnants, et tout à l'heure on en parlait, on disait que c'est aussi par zone. Il y a des endroits où par exemple il y a des ruchers qui vont être très perturbés probablement par les ondes électromagnétiques, Il y a d'autres endroits où ça va être un peu plus avec des acariens, avec le varrois. Et il n'y a rien qui est assez régulier et qui est homogène sur l'ensemble du territoire.
Une dernière.
Allez, moi, c'était pour rêver un peu.
Il le faut.
J'ai appris que les abeilles domestiques, elles ne voient pas le rouge. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas sur les fleurs rouges.
C'est pour ça que tu as bien dit non.
Par exemple, les roses rouges, il n'y a jamais d'abeilles dessus.
Il y a la couleur, mais il y a la forme aussi, parce qu'en fait...
Est-ce que les abeilles sauvages sont aussi sensibles?
Le rouge, en règle générale, c'est plutôt les tifères, c'est plutôt les mouches qui vont sur le rouge. Les papilles...
Les abeilles, elles ne voient pas le rouge.
Le rouge, elles y vont très peu, ouais. Elles n'y vont pas du tout, même, il me semble. Parce que je ne connais pas une fleur rouge où les abeilles vont dessus.
Les sauvages...
Je pense pas, c'est pareil. Je vais pas vous affirmer, mais je pense pas. Les papillons, c'est plutôt, ça va être plutôt sur les couleurs violettes, les couleurs bleues, enfin voilà. Et les abeilles, ça va être les couleurs jaunes, les couleurs blanches. Mais il n'y a pas que la couleur qui les attire, il y a aussi la forme. Les Américains, à un moment donné, avaient décidé sur des ruches de peindre des formes géométriques. Et ils estimaient que ça c'était pour que les butineuses reconnaissent encore mieux leur propre ruche. Mais c'était à partir d'études qui avaient été faites justement sur la vision qu'elles ont des fleurs et la reconnaissance.
Elles ne voient pas les couleurs comme nous aussi.
Oui.
Par exemple, le coquelicot, elle le voit noir.
Oui, c'est pas retranscrit de la même façon. Comme pour le chien.
On sait qu'on va s'habiller au printemps quand même.
Non, sur une note optimiste, les abeilles, elles ont 100 millions d'années. Bon, je pense qu'elles nous survivront. Malheureusement, là-dedans, on va laisser de côté des espèces, quoi. C'est ça la problématique. Et à mon sens, c'est surtout la biodiversité. Moi, j'ai une dame, une fois, dans les clients qu'on a, elle m'a dit « Ouais, mais moi, la biodiversité, je crois que c'était sur l'exemple de l'andrène florea qui va sur la bryone dioïque. Voilà, la bryone dioïque, c'est un curcubitacé. Et la dame, elle m'a dit « Mais moi, la biodiversité, c'est pas ça qui me fait manger tous les jours. » Mais si, c'est ça qui nous fait manger tous les jours, parce que si on supprime la bryone dioïque, on va prendre cet exemple, hein, mais y a tellement de fleurs qui vont être supprimées. Moi, je dis aux enfants, après, vous ne mangerez plus de viande, parce que les vaches, elles n'auront plus la variété d'herbes qu'il faut pour manger, donc voilà. Non, mais tout. Donc cette biodiversité, elle est unique probablement dans tout l'univers, si on veut croire que notre planète est unique. Et c'est ça qu'il faut préserver.
Bon, je crois qu'on peut remercier Christophe. Merci beaucoup. D'autant plus qu'il n'a pas l'habitude de cet exercice. Et ensuite, en rencontrant Christophe, j'ai rencontré un apiculteur extrêmement sensible au bien-être de ses abeilles. Et c'était une grande qualité, je tiens à le dire. On peut continuer le débat à côté.
Avant que vous ne partiez, je vous rappelle deux dates. Celle du 25 février, qui va se passer donc avec les années folles de la physique, et ce sera à Montesquieu-Volvestre. Et puis, la date décalée du 4 mars à Carbone, avec la démystification de la